Rollis TV, bonjour Mathieu avec un seul T et un vrai T cette fois à l'antenne et bienvenue dans ce nouveau numéro de des héros et des livres. Et à mes côtés, bien entendu, Marc est avec moi. Bonjour Marc, comment vas-tu?
Bonjour Mathieu, très bien. Bonjour aux éditeurs, j'espère que vous allez bien aussi.
Voilà, donc nous réussissons à faire notre émission mensuelle. Vous savez que c'est le rythme, malgré les aléas de ce qu'on appelle la vraie vie. Mais voilà, et on continue bien. Et ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours votre dose mensuelle. Alors, aujourd'hui, pas de nouveautés. Aujourd'hui, alors les nouveautés, on en parlera. On parlera de La Pierre du Dragon. On parlera de pas mal de rééditions la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, c'est aussi une émission alors qu'on n'avait pas prévu. Hein. Très franchement, on n'avait pas prévu une émission en hommage à ce grand monsieur, donc J.H. Brennan, Herbie Brennan, tel qu'il était également surnommé, qui nous a quittés il y a maintenant quelques semaines. Alors, on le savait, Marc, hein, qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi il n'allait pas bien et qu'il était justement décédé. Puis après, on a eu la nouvelle officielle. Alors, pour beaucoup d'entre nous qui avons aimé les livres et qui aimons toujours les livres dont vous êtes le héros, c'était un nom, tout simplement. C'était un nom. Et puis, quand on était jeune et fou, plein d'enthousiasme, qu'on pensait qu'on pourrait modeler le monde, c'est quelqu'un qui a contribué à nous faire rêver. Et puis, on est là, quelques décennies après, pour parler de lui. Voilà, signe que le temps passe. Hein, et on sait également que Steve Jackson, lui aussi, ne va pas bien. Donc, le temps passe. Et puis, c'est notre devoir de les remercier pour tout ce qu'ils nous ont donné. Marc, qu'est-ce que tu pourrais dire très rapidement sur, parce qu'on va revenir en détail, bien sûr, mais voilà, de manière très, très générale sur Herbie Brennan.
Alors, vraiment, à l'origine de ma découverte des livres dont vous êtes le héros, Brennan, ça a été un choc, ça a été un ton, une rupture de ton complètement différent. Et une autre chose dont je me souviens, c'est que je suis devenu accro à son style, et que quand j'ai commencé à voir qu'il avait aussi écrit des livres, c'était un auteur et pas juste un écrivain de livres-jeux, j'ai été très surpris, mais vraiment presque choqué, parce qu'en fait j'étais assez plutôt quelqu'un de très rationaliste, et je suis tombé sur des livres qui étaient consacrés à la réincarnation, et, et j'étais là, je me suis dit, non, ça ne doit pas être le même, et en fait si, et je pense qu'aujourd'hui, pour vraiment apprécier Brennan dans son intégralité, il faut embrasser tous ces aspects de Brennan, parce que c'est ça qui fait le ton de cet auteur absolument unique.
Alors, c'est justement ce qu'on va faire dans cette émission. Alors, bien entendu, on va parler de ses œuvres les plus connues, hein, que ce soit Quête du Graal, que ce soit Loup Ardent, Firewolf en anglais. Mais comme tu le dis si bien, et d'ailleurs, c'est bien le titre de l'émission, c'est sur Brennan, hein, c'est pas sur uniquement ces deux séries. Nous allons parler de cette personne, de qui elle était, et de voir aussi à quel point, effectivement, quand l'annonce est arrivée, ça a énormément marqué. Alors, je tiens à le dire, pour te donner un exemple, lorsque nous avons relayé sur Rollis TV, nous avons eu le plus de trafic. Alors, si je prends l'année, c'était en 2024, mais par rapport à l'année 2023, c'est le poste qui a fait le plus de trafic. C'est-à-dire qu'entre les partages, les commentaires, les interactions, les likes ou autres, il y a eu une vraie tristesse, parce que justement, pour beaucoup d'entre nous, c'est quand même une partie de notre enfance, une partie de notre adolescence, une partie d'un imaginaire, une partie d'une époque qui en est partie. Alors, je te propose qu'on commence par les... Bon, peut-être, j'allais dire à tout seigneur, tout honneur des séries, ce qui fait qu'il est le plus connu, ce sont les fameuses séries Quête du Graal. On se rappelle de ces vieilles... Alors là, j'ai une réédition, là, Au Royaume de l'Épouvante, hein, qui vient juste de ressortir. Et puis surtout, moi, ce que j'aimais beaucoup, cette espèce de... Dans ces Quêtes du Graal, il y avait ce décalage entre ces couvertures qui étaient quand même assez John Howe et Frenetton, le château du ténèbre, t'as envie de te dire, moi je me suis toujours dit, mais comment est-ce qu'il fait pour tenir sur cette barque, hein, très honnêtement, parce que vas-y, va avec une armure et une épée sur une barque en tempête.
Alors justement, il faut savoir une chose, c'est que John Howe, qui a revu ses peintures originales, se dit la même chose.
Ah,
oui, lui-même, il se dit, première chose que je vois quand je regarde ses peintures, c'est comment est-ce qu'il tient debout dans cette barque et surtout avec son armure, parce que John House est un passionné d'armure.
Ah, oui.
Il a porté des armures lui-même et voilà, il dit ça, c'est vraiment une œuvre de jeunesse, quoi, parce que. Mais il continue de bien aimer. Et tout de suite, hein, j'en profite, l'anecdote que je viens de dire, je l'ai trouvée dans le numéro spécial du marteau et l'enclume, le spécial livre-jeu numéro 2, deuxième titre qu'ils avaient fait dans ce format.
Tiens, regarde.
Consacré à la quête du Graal, et vraiment à la quête du Graal. Hein. S'il y a quelques allusions aux autres séries, c'est centré sur la quête du Graal, mais on a notamment une interview de Brennan,
oui,
de John Howe et de John Higgins.
Et puis on a de très très, enfin, et puis on passe en revue hein, les différents. Là ici, vous aviez le Château des Ténèbres. Et alors pour John Howe, peut-être que le nom pour certaines personnes ne vous dit pas grand-chose. Eh bien, John Howe, si vous connaissez Le Seigneur des Anneaux, le film de Peter Jackson, eh bien lui et Alani ont énormément contribué. Hein, la tour de Saruman, c'est John Howe hein, qui en a fait le dessin. Et vous ne le voyez pas hors cadre, mais j'ai toujours cette affiche du Festival de Saint-Ursanne. Est dédicacé par John Howe. Alors, il y avait ce décalage, comme je te disais, entre donc, ces images qui étaient complètement dans l'esprit des couvertures des livres de l'Euro, le côté, le défi, hein, allez-vous oser franchir la couverture ? Et puis, tout de suite, ce décalage, ce ton qui est unique et dans lequel on va jouer avec tout ce que va comporter la table ronde. Un Merlin qui n'est pas forcément le Merlin qu'on imaginerait. Et puis, vous jouez un personnage qui s'appelle Pip. Et une des premières choses que fait Merlin, c'est qu'il vous retire un boulon. Il vous retire un boulon du cou. Et c'est une des séries les plus populaires par son astuce, par également les intrigues. Et c'est quand même, je pense que c'est une des séries qui a le plus marqué de la part de Brennan.
Tout à fait. Et tout est dit déjà dans cette confrontation des références, du ton, de l'humour du texte, de la noirceur de certaines illustrations. Alors, tout de suite, pour vraiment mettre quelque chose au clair, Brennan n'avait pas vraiment d'approche visuelle de sa propre œuvre. Les Quêtes du Graal sont une commande de son éditeur. Et quand il a décidé de s'y mettre, bien, il a écrit le texte, il a livré à l'éditeur et l'éditeur l'a fait illustrer. Pour les couvertures, nous avons la chance d'avoir les couvertures de John Howe en France. Ce ne sont pas les couvertures originales.
Ah, même couvertures... à l'époque.
Eh oui, même à l'époque.
D'accord.
Donc Gallimard a mis le paquet hein, sur cette présentation, qui est beaucoup plus accrocheuse dans la version française que dans la version originale. Par contre, il s'est trouvé que Brennan a adoré le traitement visuel de John Higgins, l'illustrateur intérieur.
Mm-hmm.
Et c'est apparemment l'un des seuls moments, des seuls cas où Brennan s'est rapproché d'un des illustrateurs pour dialoguer, discuter avec lui. Et ils se sont trouvés, visiblement Higgins aimait l'écriture de Brennan. Brennan aimait le ton que rajoutait Higgins, et ça a créé une dynamique qui est vraiment unique et qui est issue en fait du fait que l'illustrateur a aimé le texte. Et ça, je pense que c'est vraiment vraiment révélateur à quel point l'écriture de Brennan suscite une adhésion et une envie de s'emparer de son univers et de son ton.
Et quand tu là, on parle de cela, comment est-ce que tu défierais le... Alors, on a parlé de l'écriture, hein, qui est une écriture toujours avec ces petits traits britanniques, toujours pince sans rire. Mais au niveau de la mécanique de jeu, au niveau de la mécanique ludique, comment tu définirais un Brennan par rapport à un Jackson ou un Livingstone ?
Le mad scientist.
Oh.
Le savant fou. Mais, alors, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas fini de réfléchir parce qu'il faut que je me refasse intégralement tous ces livres, que je teste les mécaniques ludiques à nouveau. Pendant la première table ronde qu'on avait fait, on avait eu l'occasion, je crois, d'en parler, ou la deuxième, et j'avais dit, bon, bah, écoutez, par exemple, pour les mécaniques de loup ardent, Clairement, on a affaire à un troll de Brennan. Voilà, c'est. Écoutez, ils veulent lancer des dés, ils vont lancer des dés, c'est pas possible. Bon, je dois revenir là-dessus parce que j'ai lu l'interview de Brennan et Brennan est très premier degré. Non, non, j'ai vraiment voulu faire quelque chose qui soit une expérience. Et en fait, plus on regarde ce qu'a fait Brennan et plus on voit qu'il est passionné par l'idée de créer quelque chose qui a du sens pour lui. C'est assez brouillon. Il y a énormément de choses qui ne fonctionnent pas ou qui ont du mal à fonctionner ou qui doivent mieux fonctionner dans l'esprit de Brennan qu'une fois qu'on est devant son livre avec ses dés, son crayon et sa gomme. Mais c'est généreux. C'est généreux, c'est incroyablement inventif. Il y a des choses qui méritent vraiment le détour et dans le même temps, on sent une certaine absence de maîtrise. Et là, en fait, je voudrais en appeler à ta propre culture du jeu de rôle, parce que il avait, lui, commencé par un jeu de rôle qui s'appelle
Oui.
Man Myth and Magic. Et j'aurais bien aimé
Magic.
savoir si toi, tu avais quelque chose, quelques
Alors c'est pas un jeu.
idées
Alors ça
là-dessus.
fait partie de ces de ces jeux qui sont des jeux. Alors de mémoire, il est sorti en livre de poche. C'est pas du tout les formats de jeux qui nous sont arrivés en France si on n'était pas en si on n'avait pas un accès sur une boutique parisienne. C'est un jeu qui avait été accueilli, on va dire, très timidement. C'est un jeu on en avait entendu parler, mais c'est là aussi, bah, tu as ce côté très très expérimental. C'est-à-dire que quand il le lance, hein, on est en, enfin, c'est impossible de vouloir détrôner un Donjons et Dragons. On est au fait, hein, de là, surtout,
82.
voilà, surtout, bah, que il faut pas espérer qu'on le revoie beaucoup aux États-Unis. Et puis, nous sommes aussi donc dans cette culture britannique, hein, où on va essayer aussi de créer, de d'amener ses propres jeux, que ce soit pas que Donjons et Dragons. Ce qui fait que là aussi, hein, donc comme je te disais, hein, c'est un jeu qui n'a pas été, enfin qui existe, voilà, tout simplement, mais de par son suivi, de par ce format très 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 étonnant, enfin non pas très étonnant parce que là j'en ai quelques-uns que je pourrais te montrer, mais si tu veux, c'est pas du tout le format qu'on aurait vu arriver en France en boutique. Donc, et il n'a pas eu de traduction. Et 82, bah, le jeu de rôle existe depuis 8 ans. C'est pas beaucoup, et donc évidemment le marché français se focalise sur ce qu'on a en français, et puis on est là aussi dans cette découverte. Donc quand on découvre et qu'on s'est engouffré, il n'y a pas tellement la place finalement pour les autres. C'est après qu'on a fait le tour qu'on va découvrir.
Alors lui-même était un passionné hein, de Donjons et Dragons. C'était un grand joueur de Donjons et Dragons. Il a voulu créer son propre système et il voulait véritablement pouvoir le nourrir ensuite avec des suppléments, ce qui n'a jamais eu lieu hein, parce que le succès n'a pas été au rendez-vous. Mais là aussi où c'est intéressant, c'est qu'en fait, là encore, c'est une œuvre de commande. On lui a demandé de sortir un univers médiéval fantastique. Parce que il avait un autre projet auparavant, donc Time Ship, et l'éditeur lui a dit d'accord, mais fais-moi d'abord un fantastique avant de faire de ton histoire un peu originale de voyage dans le temps. Et déjà là, on commence à voir quelques éléments qui sont typiquement brennaniens. Premièrement, Time Ship, le voyage dans le temps, et ben en fait dans la quête du Graal, on a le voyage dans le temps. On est un voyageur du présent réincarné dans un personnage du passé. De temps en temps, Merlin se trompe de date et on se retrouve en plein
Oui.
milieu d'autres choses. Bref, il y a déjà donc cette dimension. Et dans ce qui concerne Man, Myth and Magic, il y avait aussi quelque chose qu'on va retrouver dans les quêtes du Graal, c'est cette idée que la mort n'est qu'un passage. Et le personnage qui meurt se réincarne et tire en quelque sorte expérience de son incarnation passée. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver finalement avec le fameux paragraphe 14 des quêtes du Graal. Donc voilà, il y a vraiment déjà quelque chose là qui se joue avant même les premiers livres.
Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement parce que, le quai du Graal, on a combien déjà de numéros?
8.
On en a 8 et il explore. Moi, ce que je me rappelle de certains quais du Graal où il y avait notamment Il y en avait un qui était où il y avait un passage secret dans le passage secret, ce qui faisait que c'était. Mais on avait beau avoir la carte, si on ne faisait pas attention avec les différentes grilles, on se rendait compte qu'on tournait en rond. Moi, j'aimais aussi beaucoup cette. Il y a cette générosité et comme tu disais, alors quand tu passes d'un système qui est du Graal à un système louardant, on a une générosité. Je pense aussi que c'est quelqu'un qui voulait que le système se reflète quelque chose. Ce qui n'était pas la priorité dans les livres dont vous êtes l'héros. La priorité dans les livres où vous êtes l'héros, parce qu'il y a plusieurs manières de les jouer, c'était d'avoir un système qui tienne suffisamment la route pour nous emmener quelque part.
Oui, et chez Brennan, alors tout à l'heure on disait esprit britannique, attention, hein, Brennan est un Irlandais.
Oui, oui.
C'est un Irlandais né en Ulster en 1940 et qui a déménagé de Belfast à Dublin, où il est devenu rédacteur en chef, le plus jeune rédacteur en chef du pays, à 24 ans, d'un hebdomadaire à Dublin. C'est un journaliste depuis l'âge de ses 18 ans et il est rentré dans le journalisme parce que pour lui, ce serait la manière de devenir un écrivain. C'est un passionné d'écriture. Il a écrit toute sa vie. Il a écrit jusqu'à la fin. Et même atteint de Parkinson, il a encore sorti un ouvrage qui s'appelait Nec Tanebo en 2019, qui est visiblement a bien marché en Irlande et peut-être au Royaume-Uni pour format numérique, et qui est un thriller historique et qui se passe dans la basse époque égyptienne sous la 30e dynastie. Là aussi, on retrouve la passion de Brennan pour l'histoire. Donc, oui. Brennan, il veut d'abord raconter quelque chose. Mais dans le même temps, quand on lui a demandé de faire des livres-jeux en lui présentant Le Sorcier de la Montagne de Feu, on dit « on veut quelque chose comme ça », c'est son éditeur hein, qui lui a mis le livre de Jackson et Livingstone, il a vu tout de suite un potentiel énorme. Et il a vraiment voulu faire quelque chose et s'emparer. Et c'est un esprit tout à fait atypique, c'est quelqu'un qui a ses propres idées fixes, ses propres façons de vouloir s'emparer des médias, il a voulu le faire à sa façon. Et ça se sent parce qu'il y a de la souffrance hein, là-dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manuel pour écrire un livre-jeu à l'époque, tout est à faire soi-même à la main. Il n'y a pas encore de théorie du réseau, comme on a pu en parler la semaine dernière, la dernière émission avec Isaac Panté. Donc ça se voit que Brennan n'a pas une conscience très très claire de ce qu'est un réseau divergent, un réseau en damier, un réseau linéaire, etc., etc., et qu'il peine un petit peu à faire coexister tout ça. Mais, par contre, quelle accroche ! Le premier paragraphe du premier livre-jeu qu'il écrit, c'est pour moi un classique absolu. C'est le livre « Sortilège ». C'est-à-dire, ce livre est un sortilège, je suis en train de vous jeter un sort, vous allez être happé, vous allez être à l'intérieur de ce roman. On est en 1984, c'est l'année où sort Neverending Story au cinéma, lui-même adapté d'un roman d'un Allemand de 1979. Donc on est en plein dans cette atmosphère de l'époque où toute une génération s'empare de la puissance du récit et de l'imaginaire pour en faire quelque chose qui soit une expérience d'une certaine noblesse. Donc Brennan, il se lance là-dedans, et tout de suite, on est à quelque chose d'assez fantastique.
Attends, je te mets je vais mettre là une des... Voilà, donc là, on a par exemple, donc alors c'est l'Antre des Dragons, je pense. Oui. Donc effectivement, voilà, on n'a pas la même... c'est pas la même histoire, c'est pas la même couverture. Alors, ce que j'aime, moi, beaucoup, c'est qu'ils mettent... Attention, le système de combat est... Et la feuille d'aventure pour plus de facilité est à l'intérieur du livre. Ça, j'aime beaucoup ce petit clin d'œil. Effectivement, on a une quête du Graal qui ne serait-ce même que dans le logo. C'est intéressant de voir, c'est que Gallimard a choisi un logo, à moins que je me trompe, un logo où on voit le Graal. Grailquest. Pardon, j'ai dit bêtises. Okay,
donc, alors, voilà. À l'origine, et c'est de John Howe, hein, c'est John Howe qui a dessiné donc, le logo ici d'un homme en armure, hein, c'est John Howe. Mm-hmm. Et par contre, avec les rééditions actuelles de Gallimard, ils se sont donc décidés à faire un logo
C'est pour ça, je me disais bien, je me disais bien qu'il y avait bien un truc que j'avais vu. Voilà. Alors, voilà.
Et sur alors, le dos des nouvelles éditions.
Alors, tu peux nous expliquer pourquoi, pourquoi finalement le John Howe, on le retrouve chez Gallimard, mais pas en VO?
Ah bah, tout simplement parce que Gallimard a décidé d'appeler des dessinateurs dont ils avaient les portfolios sous la main, et ils ont considéré que ce serait quelqu'un qui donnerait un ton un peu plus épique dans la continuité, pour faire une certaine continuité avec le reste de la collection. Ce qu'on doit à Gallimard, c'est cette idée de génie de publier plein de livres qui n'ont rien à voir à travers une charte graphique, le double bandeau, les logos avec les noms des séries, et de créer un esprit de collection. Et ça, c'est un effet remarquable. C'est que quand on en a un, bah, on y veut tous par la suite. Mais pour ça, il faut travailler un petit peu donc une certaine unité visuelle. Et chose toute bête, hein, typiquement années 80, mais le liseré blanc qu'on a tout autour permet en fait de créer une espèce d'unité. Comme le double bandeau est systématiquement fait en prélevant des éléments de couleur dans l'image principale, et qu'on a un liseré blanc qui encadre l'image, eh ben en fait, c'est assez facile de donner une impression de continuité d'ensemble à toute la gamme. Donc, oui, on reconnaît... il n'y a pas de rupture de ton trop forte avec les images.
Quand on voit effectivement la VO, c'est un peu, on est quand même un peu plus dans la confusion, on va dire. On est dans une époque, voilà. C'est ça et ça. Donc, 8 séries,
8 livres.
Huit livres, excuse-moi, pardon, huit séries, qui ne se suivent pas forcément, qu'on peut jouer de manière, qu'on peut jouer de manière indépendante, mais bon, de toute façon, il y a la construction de l'histoire quand même à un certain moment. Et puis, ben, on retrouve, donc, on a quand même une épée, Excalibur Junior. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ben, dans l'autre série fort connue, on a aussi cette histoire d'épée qui va revenir en écho. Et puis alors celle-ci est bien visible en plus, cette épée, parce que quand on regarde le logo, évidemment, notre, alors Louardon en anglais, un Firewolf, avec l'astérisque. L'astérisque, qui je trouvais est une extraordinaire idée quand même. C'est-à-dire sur... parce qu'on est intrigué, et puis après on se rend compte que finalement ça va ne servir à rien, mais c'est là pour marquer sa différence. C'est-à-dire qu'on a ce petit accent, enfin c'est phonétiquement que les choses se disent différemment. Et je trouve ça extraordinaire comme idée, parce que c'est une idée qui n'amène rien techniquement, mais qui amène tout.
Oui, absolument. C'est dans l'esprit de Brennan, il s'agit systématiquement de créer des choses qui ont une raison d'être là. Et c'est le fait qu'il y ait une raison qu'elle soit là qui donne de la puissance au texte, de la puissance au personnage. C'est très important, hein, cette notion pour Brennan, parce que Brennan est quelqu'un qui est en fait un croyant dans les sciences occultes, les réalités alternatives, ce genre de choses. Et pour lui, la puissance d'un mythe, c'est d'être un guide pour l'humanité, quelque chose qui l'aide à comprendre ce qu'il doit traverser. Et par moments, quand on lui parle de science, il aime la science, mais il rejette le scientisme. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, l'absolue confiance dans la science finit par couper l'homme de la puissance des mythes originels. Et en chargeant en fait des petits détails comme ça dans l'histoire, il donne une puissance. Et il faut vraiment se rendre compte que pour Brennan, quand il dit « attention, ce livre est un sortilège », il le croit. C'est-à-dire que c'est la manière dont il pratique la magie avec certains de ses amis. Il a hypnotisé des camarades d'enfance quand il était jeune. Il assure avoir eu des rencontres fantomatiques.
Ne faites pas ça à la maison, je précise.
Et donc, là, ici, cette petite astérisque, c'est comme tu disais, c'est quelque chose qui doit évoquer une sonorité exotique, quelque chose qu'on ne sait pas faire, comme les clics des bochiments, le coup d'arrêt glottal des langues arabes, enfin tous ces éléments qui sont des éléments de phonétique. Et c'est voilà, ça apporte véritablement quelque chose. Ouais.
Et alors, on en a souvent parlé, donc là, on va revenir un petit peu dessus. Donc, est-ce que nos fameux loups solitaires, alors moi pour ma part j'avais adoré ces loups solitaires, je crois que j'avais dû tricher une ou deux fois, mais je crois que je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Et il y avait je crois que j'en avais parlé la première, il y a un passage assez érotique dans, je crois que c'est dans le premier, qu'il y a quelque chose comme ça, où finalement, il y a une demoiselle, qui, alors je ne sais plus qui c'était du tout, hein, ses souvenirs d'adolescent, qui s'offre à vous. Alors ça se finit très mal, parce que comme on est adolescent, on est plein d'un plus, ça finit très mal. Elle vous tue le chapitre d'après, en fait. Hein. Elle se met... Il y avait un ton qui était très différent, je trouve. Mmh. Et puis, notamment... Alors évidemment, on avait ce système de jeu qui était différent. Et puis, on avait aussi une narration qui était différente parce que c'était une narration à la troisième personne. Et cette narration à la troisième personne aussi crée une distance. Elle crée une distance parce qu'on est à la fois le lecteur et on est à la fois l'acteur. Alors qu'on n'a pas le fameux « vous » que l'on pouvait trouver. Mais en tout cas, c'est en quatre épisodes. Et il y a vraiment le début, puis il y a une fin, et ça s'arrête là. Et c'est ça que moi j'avais trouvé très intéressant, c'est qu'on se plongeait dans l'univers, et puis après, ben, voilà, l'histoire se terminait.
C'est d'autant, oui, je trouve que c'est très intéressant de s'arrêter là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne feuilletonne pas. On est sur un arc narratif qui est bien défini, qui a un début, qui a une fin, qu'on suit entièrement. En fait, pour moi, dans le monde actuel de production de séries, c'est ce que j'aime. Hein. J'aime les mini-séries dont les auteurs connaissent la fin au moment où ils écrivent le début, parce qu'au moins, ça évite pas mal d'errances en cours d'écriture, des incohérences, ce genre de choses. Alors, Brennan a voulu faire, cette fois-ci, exactement l'inverse du sorcier de la montagne de feu. C'est-à-dire que malgré tout, le sorcier de la montagne de feu, c'est vraiment la matrice, le livre qui a lancé la mode des livres-jeux. On lui a demandé d'en faire à la manière... Bon, il a vu la potentialité et il a fait ce qu'il a voulu avec la quête du Graal. Et pour l'Ouardant, il a voulu faire l'inverse. Donc, on est à la deuxième personne dans le sorcier de la montagne de feu, ce sera à la troisième personne. On est une coquille vide, un personnage... qui n'a pas de profondeur psychologique et les décisions sont celles du lecteur, là, ici, ce sera un personnage qui est entièrement défini de façon extrêmement forte. C'était des livres plutôt pour les jeunes ados, enfants ados. Brennan voulait que l'Ouardant, la saga des Sagas of Demonspawn, en anglais, soit pour adultes. C'était son intention. Il l'a écrit pour ça. Et donc, d'où la scène un peu osée qu'on a. À la fois parce que ben il se réfère aussi bien à des scènes mythiques du Conan le Barbare, le roman ou l'adaptation de John Milius, hein, certains se souviennent d'une dame qui propose de venir se réchauffer près d'un feu.
Oui, voilà.
Donc oui, c'est ça. Il y a cette influence. Il reconnaît aussi totalement l'influence de Moorcock dans la saga Elric, sachant que Exterminator en français s'appelle Doombringer.
Tu m'apprends quelque chose, d'accord.
En anglais, allusion à Stormbringer.
Oui, voilà. Ça se voit mieux en anglais. Ça se voit
oui,
mieux.
Tout à fait. Et ça, c'est un cas où Brennan reconnaît totalement son influence. Hein. Il ne cherche pas à la cacher. Oui, je me suis inspiré de ça, etc. Alors que pour les quêtes du Graal, c'est beaucoup plus dur de lui faire admettre des précédents. Pour lui, il avait une passion pour la matière de Bretagne. Voilà, il aimait la matière de Bretagne et il voulait l'utiliser, ce qui d'ailleurs lui a joué un tour sur le marché américain parce qu'ils sont nettement moins portés dessus. Encore que, personnellement, j'y vois une réminiscence d'un procédé qu'on trouvait chez Mark Twain, avec par exemple un Yankee à la cour du roi Arthur.
Oui, Arthur, tout à fait.
Eh oui. Quand on lui demande s'il est influencé par Monty Python et les Sacrés Graals, ben il dit non, pas du tout. Il dit j'adore, mais j'ai pas du tout pensé au Monty Python. Cela dit, c'est impossible de ne pas penser au Monty Python Sacré Graal quand on lit ses livres.
Oui, parce que quand même, il faut voir une chose. On peut pas dire que ce qui définit le livre dont vous êtes le héros, surtout à l'époque, c'est l'humour. Il faut quand même que ce soit sérieux. Toutes les couvertures te rejettent un regard de défi et tu as toujours quelqu'un qui te regarde dans les yeux, qui casse le quatrième mur quasiment dans les couvertures. Puis là, soudainement, voilà, on a ce côté humoristique. Et puis, ah non, moi, je ne connais pas. Je n'ai jamais entendu parler des Monty Python. Bon, voilà. C'est... Mais ce qui est intéressant, là, notamment...
Non. Il dit clairement, oui, j'adore les Monty Python, oui. J'adore Sacré Graal, c'est mon humour, mais je ne m'en suis pas inspiré. Bon, cela dit, moi, je trouve que quand on se retrouve à un moment sur une plateforme flottant dans l'espace à affronter une petite vieille qui joue avec du trombone à coulisses et qu'il faut éviter de tomber, si ce n'est pas du Monty Python, je ne sais pas ce que c'est.
Exactement. Mais c'est là ce que tu dis hein, sur le loup ardent et le nom original de... On a vraiment quelqu'un qui... Enfin, le nom original donc d'Exterminator. C'est Exterminator ou Hector ? Non, Triss. Le nom de l'épée.
C'était... Oh, tu me fais douter, là. Alors, attends. Doombringer.
Doombringer, et c'est, on va le retrouver. Bah oui, c'est ça, parce que c'est souvenirs qui remontent. Et alors, c'est très drôle aussi quand tu vois l'astérisque partout à chaque fois que, que tu es dedans. Donc là, on a évidemment le Arne. Alors, t'inquiète pas, on va attendre.
Il s'agit donc bien de Exterminator.
Voilà.
Alors. Donc, c'est sur Lou Ardent, on a cette volonté, en tout cas, de faire véritablement quelque chose qui aurait dû plaire aux adultes. Brennan espérait que le livre-jeu pourrait devenir quelque chose qui serait lu aussi donc, par les grands. Et puis, bon, bah, les résultats n'ont pas été là. Hein. Quête du Graal, on est sur 6 500 000 ventes. Et Lou Ardent, on cumule à peine, péniblement, 50 000.
Ah, c'est un chiffre que je trouve... hallucinant. Alors, ce sont des chiffres qui sont les chiffres anglais, ce sont les chiffres globaux.
C'est les chiffres que donne Brennan, quand il est en interview pour Le Marteau et l'Enclume.
Alors, est-ce que parce que justement, en France, on a cette espèce d'uniformisation où on a l'impression qu'on va acheter, qu'on achète toujours sur une même gamme, parce qu'on n'a pas l'impression, par exemple, pour ce qui est de la France, qu'il y ait un tel écart. Entre les deux séries. Alors certes, hein, évidemment, Loup Ardent, elle a une place en particulier. On aime, on n'aime pas. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais de se dire qu'il y a un tel écart de vente en France, peut-être que ça a été plus égal. On n'a pas les chiffres, bien entendu, mais ça, là, on a l'impression que voilà, on est quand même. On sait un petit peu ce qu'est Loup Ardent par rapport à un Quête du Graal.
Mais de la même façon, parce que nous, en jeunes lecteurs, on a été totalement surpris encore par la rupture de ton. Quand on vient des défis fantastiques, Quête du Graal nous a happé par l'humour et Lou Ardent nous a happé par le côté fatalité, sombre, dark fantasy. Voilà, c'est quelque chose d'autre. Donc là aussi, on a été marqué par ça.
Oui, parce qu'on a également le côté Horde des démons. Enfin, tu prends les titres, t'as Horde des démons, les maîtres du mal, les cryptes de la terreur. Là aussi, on ne fait pas non plus hein, dans... Alors, les titres de Livres dans les Clairons, bien sûr, ne font jamais dans la dentelle. Mais là, on a quand même quelque chose qui m'a... Et cette espèce... Voilà, cette unité de couverture... Enfin, moi, je sais que... Puis là, cette couverture première, on a l'épée, le serpent, le... C'est... Il n'y a aucune humanité. Il y a aucune humanité. Hein. C'est vraiment.
Il y a aussi, je ne sais pas si c'était voulu de la part de l'illustrateur, mais ça ressemble énormément au logo d'Anne Fred and Me des libertariens. Le serpent, le serpent enroulé comme ça et menaçant.
J'espère pas.
Mais quand on connaît Howard, par exemple. Bon.
Oui. Tout à fait.
Emilius.
Oui, beaucoup serait à dire. Alors, donc, Brennan, dans les livres dont vous êtes le héros, c'est Lou Ardent, livre dont vous, c'est Quête du Graal, et ça s'arrête là ?
Non. Il y a eu encore deux autres séries. La plus remarquable, c'est très certainement donc, ces deux titres. Collection en français épouvante. Il s'agit du Château de Dracula et de Frankenstein le Maudit.
Qui ne sont pas connus pour leur facilité. Hein.
Non, en effet. Et en anglais, on les appelait les Horror Classics. Voilà. Et c'est bien un diptyque. Brennan voulait écrire sur Frankenstein et Dracula, un peu comme plus tard Coppola et Branagh vont faire en même temps les deux films, Frankenstein et Dracula. Donc vraiment, cette idée d'avoir ici les deux classiques de l'horreur de la littérature. Puis on n'oublie pas que, si je ne dis pas de bêtises, l'auteur hein, de Dracula est lui-même irlandais,
Oui,
il me
tout à fait, Bram
semble.
Stoker est irlandais, oui, tout à fait, oui.
Tout à fait. Donc voilà, et c'est une série très très intéressante parce que il s'agit de jouer sur le renversement des personnages. On part des lieux et à partir des lieux, on va habiter ces lieux différemment selon que l'on est Dracula ou Jonathan Harker. Dracula lui-même étant traqué par Van Helsing et Jonathan Harker traquant, voilà, essayant lui aussi de s'en sortir vivant. Et dans Frankenstein, on est tour à tour Frankenstein ou la créature. Chose très intéressante, c'est que ça a permis notamment à Brennan de rappeler à tout le monde que Frankenstein, c'était le baron.
Voilà, c'est ça. Et...
Et ça fait partie aussi hein, de la volonté de Brennan. Il a toujours cru à la possibilité, en fait, en même temps, d'apprendre, de donner des éléments de culture à travers le livre-jeu.
Pour ce qui est du Frankenstein et pour ce qui est du Dracula, ils sont difficiles à trouver, ils ont été réédités, ils n'ont pas été réédités hein, de mémoire.
Ils ont été édités en V1 et en V2 chez Gallimard. Hein. Je vous rappelle que ça, c'est de la V2, là, avec
Ben
le
oui.
gros titre. Mais non, non, non. J'ai essayé de mener une petite enquête rapidement pour voir s'il y avait des projets. Pour l'instant, s'il y en a, ils sont encore bien secrets. Voilà, donc je ne préjuge de rien, mais je ne crois pas que ce soit d'actualité. En tout cas, rien ne m'est venu aux oreilles. Et par contre, j'ai, ici, derrière moi,
Tu le vois.
ici, un élément dont on parlera à la fin. Quand on sera sur la question des hommages, hein, c'est-à-dire qu'il existe un troisième tome officieux. Voilà.
Mystère, mystère. Alors, Brennan ensuite va quitter le livre dont vous êtes le héros, comme tu
Temporairement.
temporairement, pour mieux y revenir, on ne se souligne jamais, parce qu'il va revenir avec son trésor des pharaons, et là aussi, on retrouve encore hein, cet amour hein, de l'histoire. On rappellera que le jeu de rôle Man, Myth and Magic était justement aussi quelque chose où on voulait que l'histoire soit ancrée, avec plus ou moins de bonheur, comme on a pu rapidement le dire.
Exactement. Et Brennan, donc, en fait, a voulu revenir au livre-jeu et il y revient en 97. Et 97, c'est pas du tout la bonne époque pour revenir dans le livre-jeu. Mais si on cherche à comprendre pourquoi, bah, c'est tout simplement parce que Brennan adore ça. Il aime ça. Il aime écrire des livres-jeux. C'est venu comme une commande, mais il a vraiment vu que c'était pour lui quelque chose d'amusant à faire, d'amusant à lire, d'avec énormément de potentiel. Et donc, il a eu un contrat chez son éditeur pour en faire plusieurs. Deux sont sortis au Royaume-Uni, ces deux-là. Et la série s'est arrêtée. Sauf que lui, il avait écrit deux autres titres et du coup, il n'existe qu'en français.
Ah, la guerre de Troie aura-t-elle lieu? Alors, Pierre, d'accord, on a plein de choses. La dernière folie de Caligula.
Et oui.
Alors, je suppose que cela, on doit les arracher.
Pas tellement. Je tombe encore régulièrement dessus chez certains bouquinistes. Ça fait partie des livres qui reviennent hein, sur les étagères. Je pense que, en fait, ils sont écrits cette fois-ci pour un public plus jeune. Donc, après avoir voulu écrire pour les adultes avec Lou Ardent, il a voulu écrire pour les plus jeunes avec cette série. Donc, nous, on appelle les défis d'histoire et qui s'appelait simplement Adventure Game Books en anglais.
Oui, c'est sobre.
Et oui, c'est très sobre, mais chose intéressante, c'est que celui-ci s'appelle Egypt Quest, celui-ci s'appelle Aztec Quest, on retrouve le quest du Grail Quest, comme la quête du Graal, et en fait, la structure est comme celle de la quête du Graal. Nous sommes un personnage du présent, nous sommes happés par un sortilège dans le passé, on retrouve le même ton que dans les quêtes du Graal, mais avec un petit plus, qui est un petit plus pédagogique. Cette fois-ci, il pense que ces livres peuvent aider à apprendre et à connaître des choses, et c'est pas mal fait du tout. Je prends par exemple sur la dernière folie de Caligula. Je trouve ça pas mal. On est un jeune
Qui
touriste.
avait nommé son cheval consul, on rappellera.
Absolument. Sachant que sur la question de savoir si c'est est-ce que Caligula était fou en faisant ça, ou est-ce que c'est un geste de puissance en disant que les consuls ne servent plus à rien, il peut même nommer son cheval, et du coup c'est un geste politique et pas un geste de folie. Voilà. Eh bien, ici on est un jeune touriste qui est à Rome et qui a du mal à voir la différence entre des monuments antiques et des monuments de la Renaissance. Bah, rien que ça, je trouve ça super intéressant.
Ah, oui.
Parce que c'est une vraie chose, hein, quand on est là-bas, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui est antique, qu'est-ce qui est de la Renaissance, puisqu'on a les mêmes colonnes, les mêmes arcs, les mêmes ordres, les statues s'inspirent des mêmes formes. Donc, d'office, on est plongé dans quelques éléments de réflexion qui sont assez intéressants. Et puis pour le reste, on retrouve l'humour des quêtes du Graal. Donc franchement, ça vaut le coup d'œil.
Et donc, c'est son retour dont tu parlais. Puis après, effectivement, il va donc disparaître, entre guillemets, mais il va disparaître de nos yeux. Il va continuer son activité. Donc, tu le disais, il va écrire pas mal de livres.
Une centaine.
Et dans lequel, justement, il va toute sa passion pour tout ce qui... Alors, l'ésotérisme, enfin bon, tout un autre monde va pouvoir s'exprimer à loisir.
Absolument. Et dans son amour de l'occulte, du mystérieux, il va réussir à glisser en 2003 un petit ouvrage qui est un peu méconnu, signé Cornelius Rumstuckel, parce que oui, Brennan utilise des pseudos aussi. À un moment, il a même signé sous le nom de Maria, je ne sais plus quoi, Maria Palmer, voilà. Donc, Cornelius Rumstuckel publie en 2003 le livre de la sorcellerie, un livre d'initiation à la magie, mais qui contient, à la fin, pour s'exercer, une histoire interactive. Donc, il reglisse encore un livre-jeu à l'intérieur de son livre en 2003.
Et son mystérieux paragraphe 14 sur... sur... Non, vous avez raté votre invocation. Courez. Courez dessus. Donc, c'est ça que moi, je trouve assez extraordinaire dans l'écrivain qu'il était, la personne qu'il était. Le personnage, même parfois, on aurait tendance à vouloir dire. C'est ce côté touche-à-tout, ce côté amoureux de ce qu'il faisait, et je pense on le voit, tu le soulignais en début quand tu parlais de ces tâtonnements, de cette volonté de présenter des choses. C'est il y avait cette volonté d'aller sur les mers plus ignorées, de prendre toujours les chemins de traverse, de tout le temps se renouveler. Et on le voit d'ailleurs, de toute façon on voit, alors même si on n'est pas dans le rationnel comme tu le rationalisme. Mais il voulait tout explorer et, de ce fait également, énormément partager.
Oui, partager, surtout il voulait, même sa notion de la magie, c'est avant tout en fait une idée d'enchanter le réel. Je ne sais pas dans quelle mesure, jusqu'à quel degré il croit à ce qu'il raconte, parce que quand on lui oppose des arguments scientifiques, sa réponse, moi je la trouve formidable, il dit oh, « vous n'êtes pas drôle
». Oui.
Et voilà, quelquefois je me demande même si finalement Brennan ne serait pas un leprechaun, un lutin d'Irlande du Nord qui s'amuse avec nous, qui met de la magie dans le réel, du réel dans la magie. Voilà, c'était un drôle de personnage en tout cas, et il a vraiment porté ça dans ses livres.
Alors cette photo, tu nous le disais, enfin tu le disais en antenne, hein, c'était sa fille, c'est sur la page Facebook hein, de sa fille qu'elle a été mise, et c'était un hommage qui avait été donné. On arrive à la fin de l'émission. Quelqu'un qui se dit tiens, je voudrais me relancer, me replonger dans quelque chose, quelqu'un de nos âges adultes, pas encore des leprechauns, qu'est-ce que tu aurais deux trois livres que tu conseillerais?
Alors, en fait, je suis tombé dans mes recherches sur cet article, Mise à mort ou le salut de la lecture, de Jean Perrault, qui est un linguiste. Et c'est un linguiste tout à fait sérieux, éminent, mais qui a aussi pris très au sérieux la littérature jeunesse. Et il aborde la question, donc, que sont les livres dont vous êtes le héros? On est en 1988 dans la revue des livres pour enfants. Et ce n'est pas à Brennan qu'il s'adresse à ceux qui se demandent si c'est une bonne ou une mauvaise chose de lire des livres-jeux, et vraiment parce qu'il est happé tout de suite par le ton qu'utilise Brennan. Et il dit par exemple, fondé sur les ruptures et les contrastes que permettent les jeux de l'énonciation dans l'espace littéraire, la narration progresse ainsi par une série d'interpellations, de feintes et de faux-semblants. Par-delà les thèmes, le plaisir de la lecture réside dans cette exagération plaisante, dans l'exploration des différents plans de l'histoire et du récit. Et il développe ça, donc vraiment un article très très intéressant. Et clairement, c'est le premier. Il faut commencer par Les Quêtes du Graal. Donc ici, j'ai la V5, réédition. C'est formidable que Gallimard ait décidé de relancer cette série. C'est la seule série de Brennan qui est rééditée. Y a des raisons. Donc voilà, jetez-vous là-dessus. Et on en est aujourd'hui au volume numéro 5. Et les trois derniers ne devraient pas tarder. On aura la série au complet d'ici la fin de l'année, normalement.
Et évidemment, on vous tiendra au courant de tout cela. Et également, donc, on terminera dessus. Tu nous as parlé des hommages qui avaient été faits. Là, tu nous le montrais derrière. J'ai cru voir un chien quelque part.
Alors,
c'est derrière toi.
Dans la série des hommages, premier hommage que vous pouvez vous procurer assez facilement, le marteau et l'enclume fournit un hommage à Brennan sous la forme d'une aventure de 50 paragraphes sous la plume de Vador 59 intitulée Le donjon de Merlin, où l'on va retrouver donc le personnage de Cody, personnage qui a beaucoup marqué les esprits des lecteurs de la série originale. Deuxième hommage, toujours dans la quête du Graal, nous avons JP qui a écrit un volume 9 non officiel et qu'on peut se procurer en PDF gratuit, qui s'intitule La malédiction de Mordred. Voilà.
On vous mettra les liens en commentaire, bien sûr, enfin en description.
Il faut savoir qu'il existe en fait un Quête du Graal numéro 9 qui est malheureusement inédit. Je ne l'ai pas, personne ne l'a. On sait juste que Brennan l'a écrit et que ce n'est pas un livre-jeu. Le volume 9 est un roman. Et voilà, il y avait une volonté de la part de Brennan de continuer, de finir la série Quête du Graal. Donc j'espère qu'un jour... ce roman sera publié, en tout cas moi je me jetterai dessus. Et puis donc ici, publié un temps chez Feu Mégara, je crois que maintenant on peut le trouver en impression à la demande, de Gauthier Wendling, qu'on connaît très bien, pour ses Escape Books chez 404. Il a écrit parmi les meilleurs titres de la collection. Et donc c'est le volume 3 officieux de Épouvante. On y retrouve ici une illustration qui reprend les codes de la série originale. On retrouve la structure basée sur les lieux. Et cette fois-ci, on peut donc être le détective ou le chien.
Attention. Attends, effectivement. Alors, comme quoi, l'arbre donne de très beaux fruits. Écoute, Marc, je te remercie énormément d'être venu encore une fois, puis de voilà, on continue à discuter. J'espère qu'on n'en fera pas trop des comme ça, quand même.
Oui. Voilà, pas trop vite.
Hein, que le temps fasse son œuvre. Oh, oui, mais qu'il prenne le plus son temps possible, qu'il soit un joli flemmard, comme disait le poète. C'était donc le mois prochain, nous allons nous retrouver, enfin en tout cas pour ce qui sera du mois de mars, on aura une activité plus tranquille, on parlera des nouveautés, tout cela, on fera des petites thématiques. En tout cas, voilà, nous voulions parler de ce grand monsieur qui n'a pas toujours été dans nos vies, mais qui a été une partie de nos vies, qui a été un pointillé. Et lorsqu'on aime qu'on aime les univers des imaginaires, eh bien, évidemment, il a sa place avec son légendaire Pip. Il a sa place avec, effectivement, un Merlin qui n'est pas exactement comme celui qu'on pourrait trouver dans les romans et autres mythes. Il a su donner tout ce ton. Et puis, évidemment, il y aura des terribles paragraphes qu'il nous faudra toujours éviter. Mais en attendant, je trouve qu'il... qu'il est toujours là quelque part et qu'on a envie de se replonger. Moi, je t'avoue que quand j'ai su, je me suis replongé quelque peu dans la horde des démons. Et c'est là où on se rend compte, quand on a grandi, qu'il y a effectivement plein de choses qu'on ne voyait pas sous nos yeux quelque peu naïfs. Marc, je te laisse comme toujours le dernier mot. Et puis, nous disons donc au mois prochain.
Eh bien, écoutez... En effet, j'espère que nous ne multiplierons pas le format des hommages et qu'on continuera à explorer surtout ce que les différents ouvrages actuels et anciens ont à nous dire sur la richesse du livre-jeu. Mais vraiment, un grand, grand, grand merci à Monsieur Brennan pour tout ce qu'il nous a apporté.
Voilà, je crois que tout est dit.